Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 17 du podcast Livre Audio avec...
Florian Denisson.
Merci, et Cyril Godefroy. Voilà. J'ai cru que tu n'allais pas m'annoncer, j'ai eu peur.
Non mais bonjour à tous, oui j'allais quand même annoncer Florian Denisson, mais j'ai eu un petit blanc au démarrage, je ne suis pas bien réveillé, voilà, je suis désolé. Dis-moi Florian, on parle de quoi cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses dans l'actu qui sont intéressantes et qui sont importantes?
Dans l'actu?
Ouais.
C'est-à-dire dans l'actu mondiale ou... Il y a
dans
le Brexit qui m'intéresse pas mal.
Dans l'actu livre, dans l'actu polar, dans un truc comme ça, tu vois.
Dans l'actu polar, oui, il y a le Quai du Polar, les Quais du Polar, le festival, le meilleur festival de France du roman policier.
Dans la meilleure ville de France.
Ouais, aussi, c'est vrai.
Voilà.
Et d'ailleurs...
Dans le meilleur quartier de France aussi.
Ouais, aussi.
Celui on a dit tous les deux.
C'est bientôt. Vrai, maintenant, ouais. Dans le premier arrondissement.
Voilà.
Et du coup, on va se retrouver avec pas mal d'indépendants aussi.
Oui, on organise un café des Indés, un petit peu en marge de Quai du Polar, mais comme...
Voilà, pour la première année, oui, après...
Voilà, à Quai du Polar, ils invitent un petit peu que les grosses signatures, genre... Peter James, Michael Connelly qui vient spécialement de Los Angeles. Oui. Non, c'est pas vrai, il fait un book tour. Voilà, et puis plein d'autres. Toi, t'es sérieux, t'as fait une liste des gens qui venaient des conférences que tu voulais voir. Moi,
oui.
Pas encore.
D'accord, il faut le faire.
Oui, je sais qu'il faut le faire, mais j'ai pas le temps. Je fais d'autres choses.
Bon. Voilà. Ça commence demain matin à 9h30, hein, je te préviens.
Oui, je sais. Mais non, mais demain matin à 9h30, c'est simple, parce qu'en fait, nous, on est tous les deux sur le côté pro de Quai du Polar.
Oui. Voilà. Oui, oui. Mais il faut quand même que tu saches que c'est demain matin à 9h30.
Ça, je sais, merci. Voilà, donc c'est Quai du Polar, et donc il va y avoir pas mal de choses. Il y a des invités très orientés livre audio cette année. L'année dernière, déjà, Kobo avait mis pas mal le paquet sur le livre audio, parce que c'était l'époque où ils lançaient leur plateforme de livre audio.
Ouais.
Et cette année, on a
Il y a Lizzie, j'ai vu.
C'est Lizzie ou c'est Audiolib? J'ai un doute.
Il y a Lizzie aussi.
C'est Lizzie qui vient.
Ah oui.
C'est Lizzie qui vient en plus pour faire un...
Si, mais Audiolib aussi, puisqu'ils font le concours de lecture.
Voilà, il y a en plus concours de lecture. Bah, tout le monde sera là presque, il manque juste Audible.
Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une conférence sur les podcasts, et c'est demain, je crois, à 10h. Podcast et polar. Donc, je pense qu'on va y faire un tour et on va vous rapporter ce qu'on a entendu.
Oui, on va même prendre un enregistreur pour essayer de piquer un peu ce qu'ils disent.
Faisons ça.
Faisons ça. Voilà. Mais on le diffusera, le cas échéant, dans l'épisode suivant.
Tout à fait.
Voilà, donc ça c'est l'actu, mais en dehors de l'actu, il y a les livres audio qu'on a écoutés. Et on va commencer par toi, Florian. De quel livre veux-tu nous parler cette semaine?
Cette semaine, je vais vous parler de 22-11-63 de Stephen King, donc lu par François Montaigu. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé le 22-11? Ah, c'est une date, hein.
Oui, voilà, j'allais dire, si vous n'avez pas compris, c'est donc le 22 novembre 1963. Alors, moi, tu m'aurais demandé comme ça, je t'aurais dit, c'est le jour où a été assassiné John Fitzgerald Kennedy, puisque je suis complètement fou de l'histoire, de cette partie de l'histoire des États-Unis, parce que j'adore James Ellroy, notamment, et qui est assez obsédé par ça aussi. Donc, dès que j'ai vu le titre, j'ai été attiré tout de suite, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous faire, Stephen King, avec cette date, quoi. Et en fait, on est sur quelque chose qui est totalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Parce que Stephen King, on le connaît comme le maître de l'horreur, hein, évidemment, du fantastique. Mais cette fois-ci, c'est carrément un chef-d'œuvre. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, le livre audio fait 36 heures. Donc... Ouais. Mais alors, moi, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Hein. Moi, je n'avais pas vu, je ne regarde pas combien de temps ils font les livres audio, en fait, quand je le prends. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas encore fini, ce truc. Et j'ai fait, ah oui, 36 heures. Alors, avec un abonnement, on en a pour son argent, hein, parce que...
Ouais, ouais, 36 heures, ça fait quoi? Ça fait que 300 000 mots, c'est juste un énorme pavé.
C'est un énorme pavé, il fait 1000 pages, je crois, en livre.
Ouais.
Mais franchement, c'est un petit bijou, moi j'ai vraiment, vraiment adoré. Et en parlant de la performance de François Montaigu, alors François Montaigu, il a 45 titres, en tout cas sur Audible, à son actif, beaucoup de Stephen King, et il a une espèce de petite voix un peu ironique, je trouve. Et c'est vraiment super, c'est super, c'est vraiment, ça colle à Stephen King, ça colle au personnage. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Du coup, le personnage dont je parle, c'est Jake Epping, qui est prof d'anglais. Et il a un pote à lui qui s'appelle Al, qui a une petite caravane où il fait des burgers, quoi. Il est beaucoup plus vieux que lui, il a 50, 60 ans. Et ce gars le convoque pour lui dire, écoute, va au fond de la caravane, chercher un truc, tu verras. Et en fait, c'est là que Jake Epping passe dans une dimension, une espèce de tunnel, et en fait, il passe dans le passé. 3 ou 4 ans avant que Kennedy se fasse tuer, en fait.
D'accord.
Et donc ça, c'est l'élément fantastique qui est propre à Stephen King, mais le reste, c'est vraiment un roman, c'est même, il y a une histoire d'amour, c'est presque un roman historique, c'est une vraie aventure, hein, c'est génial. Et donc, il revient et il dit ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un saut dans le passé. Et de mémoire, je crois qu'il ne se passe que 3 minutes quand tu reviens. En fait, tu peux passer 10 ans dans le passé. Quand tu reviens, il s'est écoulé que 3 minutes.
D'accord.
Et en gros, Al, là, je spoil rien, hein, c'est les toutes premières lignes. En gros, Al lui dit, écoute, moi, j'essaye de faire un projet depuis des années. J'y arrive pas. Là, j'ai un cancer. Je vais bientôt mourir. S'il te plaît, reprends le flambeau, parce qu'en fait, j'ai analysé que le monde va mal, le monde s'est écroulé depuis la mort de Stephen King. Donc là, il a toute une théorie qui tient debout.
De Kennedy.
Le monde s'est écroulé depuis la mort de John Fitzgerald Kennedy. Et il n'a pas tort, enfin en tout cas, comment le fait Stephen King, cette théorie, ça tient, voilà, le terrorisme et compagnie, tout part un petit peu de ce moment où on peut tuer le président des États-Unis et tout part en sucette depuis ce moment-là. Donc, il faut qu'il empêche ça. Seulement, on connaît bien, on ne sait pas vraiment l'histoire. Est-ce que c'est Lee Harvey Oswald? Est-ce qu'il était tout seul, etc.? On rentre un petit peu dans toutes les théories du complot ou pas. Et donc, on va vivre cette histoire avec Jake Epping, quoi, qui se dit « Ok, je vais essayer d'empêcher la mort de Kennedy. » Et donc, on a une image de l'Amérique dans les années 60 et qui fait écho à celle que Stephen King, l'image qu'il a aujourd'hui de son Amérique à lui. Et c'est vraiment, vraiment génial. On est transporté pendant 36 heures dans les années 60 avec tout plein de trucs géniaux, les voitures, enfin voilà, la musique. Stephen King est un fou de musique, donc c'est vraiment génial. Alors la fin peut être un petit peu déroutante, mais je pense que quand tu as fait 36 heures de livre audio, bon, t'es déjà heureux. La fin, elle est un peu ouverte. Je crois que ça en a dérouté certains.
D'accord.
Mais voilà. Et il y a une histoire d'amour dedans aussi, très importante, avec tout un peu ce dilemme du bon, je suis un homme du futur qui est dans le passé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y reste? Est-ce que je reviens? Voilà. C'est vraiment, vraiment génial. Je pense que c'est une œuvre majeure du Stephen King moderne, parce que faut savoir que Stephen King écrit un livre tous les ans. Hein, c'est assez inégal, hein, c'est toujours un petit peu aussi la même chose. Il est très, très productif. Et on se souvient de Shining, de Cujo, de plein d'autres trucs, mais c'était plutôt dans les années 80, quoi, on va dire. Et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas produit un truc un peu mémorable. Et pour le coup, ma mère peut le lire. Voilà, c'est les gens qui disent « Ah non, Stephen King, j'aime pas, ça fait peur, il y a des monstres et du sang. » Bah non, là, pas du tout.
Oui.
Donc écoutez-le, accrochez-vous, hein, parce que 36 heures, c'est une belle œuvre, mais on en a pour son argent.
Bon, c'est bien. Bah écoute, ça me donne presque envie de traverser le Canada en voiture pour pouvoir écouter cette œuvre-là.
Et toi, du coup, ah bah non, attends, avant, Cyril, on va en écouter un petit extrait avant que tu nous parles du livre que tu as écouté. C'est parti, c'est maintenant.
J'ai jamais eu la larme facile, comme on dit. Si j'en crois mon ex-épouse, mon gradient d'émotions inexistant est la raison principale pour laquelle elle m'a quitté. Comme si le mec qu'elle avait rencontré à ses réunions des alcooliques anonymes n'y était pour rien. Christy supposait qu'elle pouvait me pardonner, disait-elle, de ne pas avoir versé de larmes à l'enterrement de son père. Je ne le connaissais que depuis 6 ans et ne pouvais comprendre quel homme merveilleux et généreux c'était. Une Mustang décapotable comme cadeau de fin d'études secondaires, par exemple. Mais par la suite, quand je n'ai pas versé de larmes à l'enterrement de mes 2 parents, elle a commencé à comprendre cette histoire de gradient d'émotions inexistant.
Donc Cyril, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Qu'est-ce que tu as écouté?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai écouté quand même il y a un certain temps, il y a 2 mois, quelque chose comme ça, qui est... que j'ai pris un petit peu pour voir. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, et c'est Millennium 5.
Ah,
la fille, 5. La fille qui rendait coup sur coup, de David Lagercrantz. Oui. J'arrive pas à lire. Lagercrantz.
Tu le diras mal, parce que c'est du suédois.
Non, mais c'est le... Oui, je ne sais pas si c'est un suédois ou pas. Si, lu par Pierre Tissot. Donc c'est la reprise en fait des personnages de la trilogie de Stieg Larsson. On a donc bien évidemment Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist,
oui,
qui pour moi a toujours la tête de cet acteur suédois qui est malheureusement décédé. Et pas du tout la
du
tête
film.
De... Hein? Dans le film, oui.
Du film, du premier oui. Film, le vrai suédois, qui est le meilleur.
Le premier film, qui est le meilleur, oui. Même si j'aime tout bien Michael Craig,
je trouve
que le suédois est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus péchu et tout. Bon, livre que j'avais aussi lu auparavant, etc.
Oui, et j'allais te demander, en fait, si
j'avais lu la trilogie avant, quand elle était sortie chez Actes Sud, etc. Là, c'est un livre qui, par ailleurs, n'est pas produit par Audiolib, parce que Audiolib avait produit la première trilogie. Ouais. C'est un livre qui est produit directement par Actes Sud. Donc, on a un petit changement de narrateur trilogie d'origine et les nouveaux, là, Millennium 4 et Millennium 5. Mais j'avais lu Millennium 4 en livre numérique, comme quoi...
Alors, c'est quoi Millennium 4 c'est, il raconte la récupération... Enfin, je n'ai pas compris ce que c'était le 4, en fait.
Non, c'est en fait, ça ne revient pas du tout sur la trilogie, ça revient pas sur le passé des, enfin, ça revient un petit peu sur le passé des personnages principaux, à savoir Lisbeth et Michael. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ça enchaîne sur d'autres histoires. En fait, c'est ça devient vraiment le héros récurrent avec son caractère bien tranché. Son histoire qui est déjà connue, etc., etc. Ouais. Mais on enchaîne.
C'est des enquêtes de journalistes.
Enchaîne, voilà. Alors, ça peut être. C'est un peu un mix d'enquête de journaliste et d'enquête criminelle avec le côté un peu particulier de Lisbeth qui est à moitié...
Hackeuse.
Hackeuse, à moitié... comment on dit déjà Asperger, des choses comme ça. Et là, justement, c'est concentré... Le 4, c'était concentré justement sur les enfants qui étaient autistes. Et qui pouvait avoir un syndrome d'Asperger. Alors, je marche sur des œufs en disant autisme, syndrome d'Asperger, parce que, voilà...
Si, c'est une forme d'autisme. Hein,
donc, oui, mais voilà, j'ai entendu dire des gens que c'était pas exactement la même chose. Enfin bon, ok.
Ah bon.
Voilà. Et le 5, on continue toujours dans la même veine, sauf que cette fois-ci, Lisbeth commence cette histoire en étant en prison et qu'elle est confrontée au milieu carcéral. Normalement dans des conditions absolument idéales, puisqu'elle est censée être dans une prison un peu 5 étoiles, tranquille, etc. Mais en fait, il s'avère que même les prisons pour femmes 5 étoiles suédoises, c'est quand même un critère de qualité. Et il y a quand même des crimes, de la violence, des choses comme ça qui se produisent à l'intérieur. Et puis par ailleurs, Michael qui est à l'extérieur a lui aussi des enquêtes à mener. Alors... On retrouve cette dichotomie entre une enquête d'un côté, une enquête de l'autre. Il y a eu des moments où je retrouvais pas vraiment les personnages, moi. En tout cas, pas ceux que j'avais connus avec Stieg Larsson. Plus, bon, David Lagercrantz avait déjà écrit le quatrième, donc on est plus dans la continuité. Mais
oui, bien sûr.
J'étais plus vraiment avec les mêmes personnages. Heureusement, ce livre est très bien rattrapé par l'excellente lecture de Pierre Tissot.
D'accord.
Que je trouve vraiment, qui a une très belle voix, une très bonne interprétation. Ça fait vraiment plaisir. Ce qui fait que, bon, on laisse un petit peu de côté par moment quelques incohérences qu'on pourrait percevoir ou des... J'ai eu l'impression qu'il y avait des erreurs sur un petit peu le canon, en fait. Le canon, à savoir les histoires de Lisbeth, ce qui lui était arrivé dans le passé, les tuteurs avec lesquels elle avait vécu, avec lesquels elle avait été, etc., etc. Et cette histoire, elle se penche à nouveau sur une espèce de complot de l'État suédois ou de certaines officines de l'État suédois.
Ouais, un peu comme dans les premiers trilogies.
Voilà, un peu comme dans la première trilogie, sauf que là, c'est bizarrement axé sur les enfants, la sélection des enfants à la naissance, la manière d'élever les enfants de manière différente. Un petit peu comme dans Tutura le père.
Oui, oui.
Sauf que là, il y a une histoire de jumeaux qui sont séparés à la naissance, avec des jumeaux qui sont mis dans certains milieux et d'autres jumeaux qui sont mis dans d'autres milieux. Voilà, j'irai pas plus loin parce que sinon après, je vais spoiler et tout le monde va me jeter des tomates pourries à laquelle, ce qui serait dommage. Bon, on retrouve... C'est pas facile de reprendre comme ça des personnages qui sont assez emblématiques, qui ont hyper bien marché, etc., etc. Je trouve que malgré ses défauts, parce que je lui en trouve, David Lagercrantz, il s'en tire pas trop mal. Il s'en tire pas trop mal, mais j'aimerais qu'il fasse un petit peu plus d'efforts. Par moments, j'ai un peu l'impression qu'il s'appuie trop sur, justement, la trilogie, et qu'il faudrait un petit peu qu'il sorte de tout ça pour aller dans des choses nouvelles. Voilà, donc c'est un livre que j'ai apprécié, même si je l'ai lu, écouté d'une oreille par moments un peu distraite, et qu'il y a eu un ou deux moments où je me suis dit « Non, mais il raconte des conneries, là. » Enfin, c'est pas le narrateur qui raconte des conneries, mais c'est l'auteur qui dit des bêtises.
Oui, oui. Alors, j'ai une question à te poser.
Ouais.
Est-ce que tu sais comment ça s'est déroulé ? Je connais pas la réponse, hein. C'est une vraie question. Comment ça s'est déroulé au niveau des droits ? Comment c'est possible que cet auteur puisse continuer l'œuvre de Stieg Larsson ?
Alors, en fait, le frère de Stieg Larsson est toujours vivant. C'est lui l'ayant droit de Stieg Larsson.
D'accord.
Et il a accordé
c'est lui qui choisit,
à
gros,
l'éditeur la mission de trouver un auteur et il lui a accordé.
Ouais, c'est surtout,
droit.
À mon avis, l'éditeur qui a demandé.
Oui, je pense qu'il y a eu un peu des deux. Enfin, voilà. Après, mais en tout cas, les droits moraux sont respectés dans le sens où c'est le frère qui est l'ayant droit.
C'est lui qui
continue. Et puis, il n'y a pas de mélange entre l'histoire d'origine de la trilogie de Stieg Larsson Millennium et cette nouvelle série. Par ailleurs, on retrouve moins quand même... ce qui se passait dans Millennium, dans ces tomes-là, et dans la revue Millennium, parce qu'il y avait la revue aussi. Il y a moins ces histoires de journalisme avec d'autres.
C'était bien, moi j'aimais bien ça.
Ouais, j'aimais beaucoup tout ça. Donc c'est peut-être aussi quelque chose. Enfin, je vais lui écrire un petit mail à David Lagercrantz pour lui dire va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis par ailleurs, la directrice de Millennium, elle est complètement rabaissée au titre de personnage secondaire, alors que...
Bon, avant elle était vachement...
Ouais.
Dis-moi Cyril, on s'écoute un petit peu la voix de Monsieur Tissot ?
Avec plaisir.
Le vendredi, c'était le jour de Lisbeth. Chaque vendredi après-midi, Michael Blankvist lui rendait visite à la prison. Il s'en faisait une joie. Surtout depuis que sa colère était retombée et qu'il avait accepté la situation. Ça avait pris du temps. L'accusation et le jugement l'avaient mis hors de lui. Il avait empêté et s'était déchaîné à la télévision et dans les journaux. Mais quand il avait compris que Lisbeth elle-même s'en fichait, il avait considéré la situation de son point de vue à elle. Pour Lisbeth, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat.
Eh bien écoute, Cyril, merci pour cette chronique et cet extrait. Et qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite de bonnes écoutes jusqu'à la semaine prochaine ?
Voilà, on souhaite de bonnes écoutes jusqu'à la semaine prochaine. Je voudrais quand même savoir ce que tu lis en ce moment, Florian.
Ah oui, tout à fait. Je lis « Copier n'est pas jouer » de Frédéric Mollet. Voilà, je suis un petit peu... Je voulais le faire aujourd'hui, puis je n'ai pas vraiment fini. Mais bon, comme toi, un peu écoute distraite un petit peu. Enfin, oui. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est moi qui suis distrait ou si c'est le texte qui me distrait. Mais...
Ouais, moi, j'écoute Maxime Chattam, le signal. Ah. Et il faut que je le finisse avant que le prochain Musso ne sorte parce que j'ai décidé de lire le prochain Musso dès qu'il sortait.
Ah ouais, ok.
Voilà.
Bah, écoute, à la semaine prochaine alors.
Et puis, d'ici là, bon week-end à Quai du Polar et puis bonnes écoutes de livres audio, qu'il s'agisse de polar ou pas. Au revoir.
À plus.